je commence. Le premier mot, le premier intitulé d'aujourd'hui, c'est le mot « écoute », le substantif « une écoute ». Vous savez que la hiérarchie des cinq sens, non seulement n'est pas la même chez l'animal et chez l'homme, par exemple chez l'animal, disons chez le chien, le premier sens, le sens qui vient en premier, c'est l'odorat, ensuite c'est l'écoute, et ensuite seulement c'est la vue. Donc la hiérarchie des cinq sens n'est pas la même chez l'animal et chez l'homme, mais de plus, vous le savez peut-être, elle n'est pas la même à l'intérieur de l'histoire humaine. Lucien Febvre, et en tout cas son école historique, ont bien montré que pour l'homme du Moyen-Âge, par exemple, disons en gros, le sens qui prévalait sur tous les autres, c'est-à-dire le sens qui le mettait le mieux, le plus activement en relation avec le monde, c'était précisément l'ouïe. Ça n'était pas la vue, c'était l'ouïe. L'homme du Moyen-Âge écoutait, je dirais, plus qu'il ne voyait. Et il était relié au monde par l'écoute plus que par la vision. Et puis, vous le savez, à partir de la Renaissance, il y a eu, disons, en gros, une sorte de renversement, et c'est la vue qui a pris la première place. L'ouïe est passée au second plan. Mais peut-être est-elle tout simplement refoulée. On nous dit sans cesse aujourd'hui que nous sommes dans une civilisation de l'image, en l'opposant par là d'ailleurs essentiellement à la civilisation de l'écriture. Mais qui dit que cette civilisation de l'image n'implique pas un refoulement de l'écoute? En tout cas, dans l'espace du vivre ensemble, il y a des traces multiples d'écoute. L'écoute est constitutive de quelque chose. Alors je vais simplement, comme d'habitude, ouvrir le dossier et revenir d'abord à cette notion de territoire. Le territoire de l'animal est souvent marqué par l'odeur. Le territoire humain peut être marqué par différents sens. Souvent, il est marqué par la vue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon territoire est constitué par tout ce qui m'appartient ou ce qui m'appartient de tout ce que je peux embrasser d'une seule vue. C'est peut-être, disons, le contenu anthropologique de la notion d'horizon. L'horizon, c'est la ligne qui ferme mon territoire. Et il faudrait rassembler, il y a certainement beaucoup de légendes mythologiques et folkloriques là-dessus, il faudrait constituer un dossier. Le territoire humain peut être aussi constitué par le tact, par le toucher. M'appartient tout ce qui est à portée de mon geste, de mon bras. On pourrait définir cet espace qui est défini par là où je peux atteindre les objets, par le terme de niche. La niche, c'est là où je peux atteindre des objets sans bouger mon corps. Et je reviendrai, je crois, sur ce phénomène dans une figure un peu plus loin. Mais aussi, bien sûr, alors c'est là que je veux en venir, le territoire humain peut être constitué par une sorte de réseau polyphonique de tous les bruits familiers. C'est-à-dire les bruits que je peux reconnaître et qui dès lors sont les signes de mon espace. Il y a là-dessus une page très précise, pour ne pas dire très belle, de Kafka, je vais vous la lire. C'est dans le journal de Kafka. Et voici ce que Kafka dit de cet espace d'écoute. Je suis assis dans ma chambre, c'est-à-dire au quartier général du bruit de tout l'appartement. J'entends claquer toutes les portes, grâce à quoi seuls les pas des gens qui courent entre deux portes me sont épargnés. J'entends même le bruit du fourneau dont on ferme la porte dans la cuisine. Mon père enfonce les portes de ma chambre et passe vêtu d'une robe de chambre qui traîne sur ses talons ou gratte les cendres du poêle dans la chambre d'à côté. Vali demande à tout hasard, criant à travers l'antichambre comme dans une rue de Paris, si le chapeau de mon père a été brossé. La porte de l'appartement est déclenchée et fait un bruit qui semble sorti d'une gorge enrhumée. Puis elle s'ouvre un peu plus en produisant une note brève, comme celle d'une voix de femme, et se ferme sur une secousse sourde et virile qui est du plus brutal effet pour l'oreille. Mon père est parti, maintenant commence un bruit plus fin, plus dispersé, plus désespérant encore, et dirigé par la voix de deux canaris. Donc ici, ce qui est décrit, c'est un véritable paysage sonore, c'est la sonorité familiale, le paysage sonore familial, qui, en l'occurrence, en tout cas, est un paysage de rassurement. Alors, je crois que cette page est très intéressante parce que elle montre que, disons, le paysage sonore est discontinu. Il est fait d'éléments discontinus, de sons discontinus, et en même temps, il est très codé. D'où, par rapport à ce paysage très familier, ce paysage sonore très familier, la force de l'insolite, du bruit insolite. C'est-à-dire soit un silence inattendu, soit un bruit que je ne peux pas reconnaître. Et dans les deux cas, quelque chose qui oblige mon oreille, ou par mon oreille, qui m'oblige à un travail d'interprétation. Et à ce sujet, je pense qu'on pourrait établir une différence entre l'appartement et la maison. Dans l'appartement, les bruits sont exigus et ils sont maîtrisables. Mais dans la maison, il y a comme un risque accru de bruit inconnu. Et c'est pour ça que la maison est, disons, une image, un thème ou un objet extrêmement ambivalent. C'est un thème du rassurement, c'est un thème de la sécurité, mais aussi c'est un thème du fantastique. C'est un objet fantastique, la maison. Vous savez très bien qu'il y a tout un folklore de la peur par apparition dans la maison d'un bruit irreconnaissable. Et tandis qu'au contraire, l'appartement, c'est un espace de sécurité parce que du point de vue sonore, si vous voulez, on est sûr dans l'appartement qu'un vague bruit de robinet ou de chauffage derrière une cloison, ça vient du voisin. Tandis que dans la maison, s'il y a un bruit qu'on ne peut pas reconnaître, on ne sait pas d'où il vient. Il ne peut venir que de quelque chose qui me concerne. Et la maison, disons, c'est l'espace qui intègre tous les bruits, qui doit les intégrer. Tous les bruits m'appartiennent, tous les bruits me concernent dans une maison, et par conséquent, je suis spécialement visé par le bruit inconnu. Maintenant, je voudrais rappeler qu'il y a un rapport bien osé par la psychanalyse entre l'écoute et la sexualité. Ce rapport a été, je le répète, vu et posé par Freud, notamment, disons, je parle de mémoire, dans la théorie de la scène primitive, qui est une scène d'écoute, et aussi dans un article dont je n'ai pas le titre exact, étude d'un cas qui semblait contredire la théorie de la paranoïa ou quelque chose comme ça, où c'est l'histoire d'une jeune femme qui croit entendre le déclic d'un appareil photographique, d'un photographe caché dans un rideau pour la photographier pendant qu'elle était en train de faire l'amour avec son amant. Donc, mouvement typique de paranoïa, alors qu'en réalité, Freud démontre que ce n'est que le clic de son clitoris. Alors, il est certain que dans une communauté, il y a des éléments d'écoute érotique. Dans une communauté, on est sans cesse amené à écouter le plaisir des autres, le plaisir qui appelle et dont on est exclu. Par exemple, dans le sanatorium de la montagne magique, à un moment, Hans Castorp, le héros, entend ses voisins, qui sont des Russes, faire l'amour à côté. Et c'est très soigneusement noté. De là, la mécanique invincible de l'écoute qui épie, qui a une fonction d'espionnage. Écouter, c'est épier l'autre, c'est épier les autres. Dans ce roman de Zola dont j'ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle Peau Bouille, Tout l'immeuble bourgeois est un espace d'écoute et d'espionnage, car la cloison ferme à la vue ce qui se passe dans les appartements, elle protège la respectabilité, mais au-delà de la cloison, il y a un espionnage possible par l'écoute. Mais le meilleur exemple, ce n'est pas dans Aubouille, mais c'est dans un autre roman de Zola, dont je crois que j'ai déjà parlé, je considère comme un des meilleurs romans de Zola, c'est un roman du début, c'est La conquête de Plassans. Et au début, on voit le propriétaire de la maison, qui s'appelle Mouret, qui a accepté de louer une chambre du second étage à un prêtre et à sa mère, et on voit ce propriétaire désœuvré qui rôde dans la maison, véritablement à l'écoute du prêtre locataire. Je rappelle que, entre parenthèses, ceci fait partie aussi d'un thème historique et littéraire qui est la figure du prêtre au XIXe siècle. Au XIXe, il y aurait presque un cours à faire là-dessus, enfin, si tant est qu'on puisse passer 13 séances sur ce sujet. Mais le prêtre au XIXe siècle, n'est-ce pas, a été un objet dans la littérature, un objet très sexualisé, auréolé de perversité. Et bon, il y a le prêtre de Zola dans La conquête de Plassans, il y a le prêtre dans Michelet, il y a le prêtre dans les Goncourt, enfin, il y a un thème, disons, qui serait à explorer. Là. On pourrait rattacher ça un peu, je dirais, au ce qu'on pourrait appeler parodiquement le complexe de Noé, c'est-à-dire le complexe par lequel on découvre la nudité du père, ou plutôt on la cache, ce qui veut dire qu'on la découvre. Et donc Mouret épie par son écoute, parce qu'il ne peut rien voir, la porte est toujours fermée, ce prêtre locataire, et Zola dit, désormais, il aurait une occupation, un amusement qui le tirerait de la vie de tous les jours. En face de quoi on pourrait dire qu'une communauté idyllique, une communauté utopique, c'est-à-dire un espace de vivre ensemble sans refoulement, c'est en cela que ça serait idyllique, serait un espace sans écoute, c'est-à-dire un espace où l'on entendrait mais où l'on n'écouterait pas. Un espace d'une transparence sonore absolue. Je dirais d'ailleurs que ceci, à mes oreilles, si j'ose dire, définit très exactement la musique. La musique, paradoxalement, c'est un espace où on n'épie pas. Ou, si vous voulez, pour aiguiser le paradoxe, la musique, pour moi, c'est un espace où on entend, mais où on n'écoute pas. Alors, le substitut de cette levée du refoulement au niveau de l'écoute, c'est, puisqu'on ne peut pas réaliser des espaces sonores absolument transparents, on essaye de réaliser des espaces à bruit intégralement codé, c'est-à-dire à bruit qui ne dérange pas. Et c'est la définition même du monastère. Dans le monastère, il y a un silence de règle qui n'est traversé que par des bruits tellement codés qu'on n'a plus à les écouter, on n'a plus à les épier. Et l'instrument de cette espèce d'utopie sonore, c'est la cloche. C'est le thème de la cloche qui est en même temps l'instrument de la règle, mais l'accomplissement aussi d'un bruit sans angoisse, d'un bruit sans paranoïa, d'où la métonymie entre la cloche et le ciel. Voilà pour l'écoute. J'en viens maintenant à une figure auquel j'ai donné un nom que je vais justifier un peu plus tard, n'est-ce pas ? Parce qu'à première vue, il va vous surprendre. Ce nom de cette nouvelle figure, c'est le mot éponge, une éponge. Je vais expliquer, bien sûr, dans un instant. Je voudrais commencer par dire qu'il y a des sujets individuels, disons chacun de nous ici, qui peuvent avoir des fantasmes de vivre ensemble, ou qui réalisent même, qui commencent à réaliser partiellement des petits morceaux de vivre ensemble. Mais si on fabrique, si on exploite ce fantasme, c'est-à-dire si on essaye de fabriquer un vivre ensemble fantasmatique par la pensée, on peut le faire en prélevant, en quelque sorte, à titre de jeu fantasmatique, les partenaires de ce vivre ensemble futur dans le réseau des gens qu'on connaît. Enfin, on peut construire un vivre ensemble avec les gens qu'on connaît. Or, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que dans cette élaboration fantastique ou fantasmatique, ce n'est pas de voir qui on choisit, ça serait plutôt de voir qui on élimine. Car les critères d'élimination fantasmatique ne recouvrent pas forcément les impératifs de l'affect. Souvent, les critères d'élimination sont des critères très subtils à analyser. Et à vrai dire, si on voulait faire un travail sur son propre fantasme, ce n'est pas tellement sur les gens qu'on choisit pour vivre avec eux que sur les gens que précisément dont on ne veut pas vivre avec eux. C'est là qu'il faudrait s'interroger. Alors, dans beaucoup de communautés, il y a ce paradoxe qui est précisément l'objet de cette figure suivant, c'est que ce qui est éliminé de la communauté est cependant intégré par la communauté. C'est-à-dire, ce qui est éliminé est intégré en gardant son statut d'éliminé. Voilà le phénomène que je veux signaler. C'est le statut contradictoire du paria. Le paria est rejeté et intégré. Ou plutôt, il est intégré dans la communauté comme déchet. Il est intégré comme désintégré, si je puis dire. Il est intégré comme rejeté. Peut-être, bon, c'est une sorte de rêve, d'élucubration, si vous voulez, qu'on peut faire, peut-être n'y a-t-il pas de communauté sans déchets intégrés. Peut-être dans toute communauté y a-t-il toujours, sous des formes substitutives, un déchet intégré. Si vous prenez le monde à ce jour, vous observez des types de sociétés très différents, mais probablement vous ne trouverez, en tout cas dans l'état actuel du monde, pas une seule société sans déchets incorporés. Toute société garde jalousement ses déchets et les empêche de sortir en général. Et il faudrait donc à la sociologie mondiale, la sociologie du monde ou la sociologie planétaire, il faudrait maintenant, je dirais, une théorie du déchet incorporé ou du rejet retenu. Car en fait, par rapport à ce déchet retenu, il n'y a d'une société à l'autre que des variations d'hypocrisie, des variations de justification idéologique qui concernent, disons, le paria, le déchet, qui tend à ne plus être reconnu comme tel. Or, dans notre corpus, il y a une histoire de déchets que je vais vous lire et raconter pour que ça ne soit pas trop long. C'est donc dans l'histoire losiaque, cette histoire ou cette série d'anecdotes sur les moines ou les monastères d'Égypte. C'est donc ici. C'est un chapitre qui s'appelle « Celle qui jouait la démence ».« Celle qui jouait la démence ». Je lis le début. La scène se passe dans un monastère de femmes. Dans ce monastère, il y avait une autre vierge qui jouait la démence et la possession diabolique. Elle inspirait tant de répugnance qu'on ne mangeait même pas avec elle ce que justement elle voulait. Elle rôdait dans la cuisine et on l'employait à tout. Elle était, comme on dit, l'éponge du couvent. Elle mettait en pratique le mot de l'Écriture. Si quelqu'un juge à propos d'être sage parmi nous en ce siècle, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Je signale entre parenthèses que c'est là un topos de la sagesse, n'est-ce pas? Se faire fou pour devenir sage, ou avoir l'air d'être fou pour être sage, c'est un topos de la sagesse, je dirais, universelle, puisqu'on retrouve la même observation dans des écrits du Tao, hein, qui dit par exemple « Quoique sage, faire l'insensé », c'est-à-dire s'obstiner à vivre dans la retraite, voilà la vérité essentielle, n'est-ce pas ? « Quoique sage, faire l'insensé », voilà la vérité essentielle. Alors, cette éponge du couvent s'était liée des chiffons sur la tête, toutes les autres sont tendues et portent la coule, et faisait ainsi le service. Aucune des 400 religieuses ne la vit manger sa vie durant. Elle ne s'assit pas à table, elle ne prit pas un morceau de pain. Elle se contentait des miettes qu'elle loquetait sur les tables et des lavures de la vaisselle. Jamais elle n'offensa personne, elle ne murmura, elle ne dit un mot, petit ou grand, et pourtant on lui donnait des coups, on l'insultait, on lui souhaitait du mal, on l'avait en aversion. Alors là, je résume ce qui se passe ensuite. Il y a évidemment une sorte de renversement évangélique. Il y a un saint qui était dans les environs, qui s'appelait le saint Piterum, P-I-T-R-O-U-M, saint Piterum, qui est averti par une révélation, et cette révélation lui dit qu'il y a une femme plus pieuse que lui. Et donc Piterum va au couvent pour voir cette femme qui est plus pieuse que lui. Une fois entré dans le couvent, il demanda à les voir toutes, mais elle ne paraissait pas, la femme plus pieuse. Finalement, il leur dit « Amenez-les-moi toutes, il en manque encore une. » « Nous avons une sotte, disent-elles, à l'intérieur, à la cuisine, car c'est le nom qu'on donne à celle dont l'esprit est dérangé. » Il leur dit « Amenez-la-moi aussi, faites-la-moi voir. » Elles allèrent crier après elle, mais elle ne répondit pas, se rendant compte peut-être de la situation ou avertie par une révélation. Elles l'entraînent de force et lui disent « Saint Piterum veut te voir, car il était célèbre. » Quand elle arriva, il aperçut les chiffons qu'elle avait sur le front, et il tomba à ses pieds en disant « Bénis-moi ». Elle tomba pareillement elle aussi à ses pieds en disant « Bénis-moi, toi, Seigneur ». Dans leur surprise à toutes, elles lui disent à lui « Père, ne t'offense pas, mais c'est une sotte ». Et Piterum leur dit à toutes « C'est vous qui êtes des sottes, car c'est elle qui est notre mère, et à moi et à vous. C'est en effet le nom que l'on donne à celles qui ont des charismes. Et je demande dans mes prières à être trouvée de son mérite au jour du jugement. » À ces mots, elles tombèrent aux pieds de Piterum en faisant chacune des aveux différents. L'une avait déversé sur elle la lavure d'un plat. Une autre l'avait abîmée à coups de poing. Une autre lui avait fourré de la moutarde dans le nez. Et toutes, en un mot, de déclarer des outrages différents. Il fit donc une prière pour elle et il s'en alla. Quant à elle, contrariée des louanges et des hommages des sœurs et excédée de leurs excuses, elle quitta le monastère quelques jours après. Où alla-t-elle? Où échoua-t-elle? Comment finit-elle? Personne ne l'a su. Bon, je vais commenter un petit peu ce texte très rapidement. Vous rappelez peut-être que lorsqu'on a commencé à faire de l'analyse structurale du récit, Grémas a proposé un schéma extrêmement intéressant, qui n'a pas été repris depuis, mais qui avait en tout cas, à cette époque-là, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, une grande valeur d'incitation à travailler les récits. Ce schéma disait qu'au fond, un récit, du point de vue des actants, c'est-à-dire des rôles des personnages, un récit est structuré comme une phrase et qu'on peut retrouver dans le récit, en gros, les mêmes fonctions grammaticales qu'on retrouve dans une phrase. Et c'est ainsi que Grémas avait dit que dans tout récit, au fond, moyennant évidemment des combinatoires variés, on retrouvait un destinateur, c'est-à-dire quelqu'un qui envoie l'enjeu dans le jeu, un destinataire, celui qui est destiné à le recevoir, un sujet qui est le sujet d'une quête, celui qui part à la quête de quelque chose, qui est en général le héros principal du récit, un objet, c'est-à-dire l'objet de la quête, et puis des adjuvants, des personnes qui l'aident dans cette quête, et des opposants, des ennemis qui s'opposent à lui dans cette quête. Eh bien, je dirais que ce schéma me paraît maintenant, disons, trop raisonnable, trop harmonieux, et qu'il manque un actant, peut-être, dans cette chaîne, qui serait précisément l'actant déchet, l'actant éponge. On pourrait même, c'est là une simple hypothèse de travail, imaginer une typologie des récits et des communautés, ou des fictions de communautés, en fonction du rôle de cet actant déchet, c'est-à-dire observer les récits ou les communautés du point de vue de la présence ou de l'absence d'un actant déchet, d'une éponge, pour reprendre la métaphore de notre anecdote. Par exemple, il y aurait les communautés où l'actant déchet est présent, c'est-à-dire où le déchet est intégré dans la communauté. Alors, le premier exemple, c'est l'anecdote de Piterum, mais par exemple, dans un roman dont j'ai déjà parlé, le roman de Golding, Lord of the Flies, le seigneur des mouches, vous avez aussi un gosse, n'est-ce pas? C'est une bande de gosses qui sont sur une île déserte et qui s'organisent en communauté, par conséquent, et vous avez tout de suite noté qu'il y a un gosse qui est le gosse déchet, le gosse éponge, on l'appelle porciné, petit porc. Hein. Dans Pobouille de Zola, vous avez aussi un actant déchet qui est une bonne, qui s'appelle Adèle, qui est un souillon. Là, il faut rappeler une fois de plus qu'il s'agit d'un immeuble bourgeois, et que par conséquent, dans cet immeuble bourgeois, il y a des cercles de standing. Au standing des maîtres répond analogiquement le standing des domestiques et répond le standing des étages, n'est-ce pas? C'est une loi bien connue de la construction des immeubles au 19e siècle, c'est que plus on montait en étage, plus on dégringolait dans l'échelle sociale, n'est-ce pas? L'étage noble, c'est le premier, et jusqu'au dernier étage, qui est l'étage des bonnes. Et on observe très bien cette espèce de décroissance du standing dans l'immeuble de Pobouille, puisque au dernier étage, c'est-à-dire avant les chambres de bonnes, on a une famille très pauvre, les Pichons, qui n'ont pas de bonnes, précisément. Hein? Mais avant eux, c'est-à-dire l'appartement avant, c'est une famille qui est aussi extrêmement pauvre, ou en tout cas sans ressources, la famille des Josserand, mais qui ont tout de même la possibilité d'avoir une bonne. Et cette bonne, c'est précisément Adèle. Elles ont un souillon qui est Adèle. Et Zola a très bien vu ce rôle d'Adèle. Adèle, c'est l'éponge. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est l'éponge des maîtres, mais encore c'est l'éponge de la domesticité elle-même. Puisque, je l'ai dit à propos de la figure domestique, n'est-ce pas, il y a une reproduction homologique entre le monde des domestiques et le monde des maîtres. Alors, le monde des domestiques a aussi son paria. Et ce paria, c'est précisément Adèle. Le monde des domestiques dispose d'un espace communautaire, qui est la cour où il y a les cuisines, et Adèle est sans cesse invectivée et moquée par les fenêtres de cette cour. Elle est donc deux fois éponge par rapport aux maîtres et par rapport à leurs domestiques. Sa solitude de déchet, sa solitude d'éponge est donc absolue. Et cette solitude de paria est illustrée à la fin par une scène horrible, de réalisme en tout cas, qui est la scène de l'accouchement clandestin. Adèle a été engrossée par un ami de la famille dont elle est la bonne, et une nuit, elle accouche toute seule dans sa petite chambre de bonne, sans aide, sans regard, et l'enfant est jeté à la poubelle, et dès lors, tous se referment sur la respectabilité bourgeoise et domestique, et le paria revient donc au néant, ce qui correspond dans notre histoire au départ et à l'évanouissement de l'éponge, n'est-ce pas, de la démente qui s'en va on ne sait où. Ça donc, ce serait pour les récits et les communautés où il y aurait marqué la place d'un actant déchet. Mais il y a des récits sans actant déchet, c'est-à-dire où disons, ça serait, la structure marquerait ici un degré zéro. Par exemple, dans Robinson Crusoe, on n'a que deux espaces, ou bien on a l'espace de la solitude, d'abord complète et ensuite à deux, avec Vendredi, et ensuite il y a un groupe à esclavage, mais précisément, les esclaves ne sont pas des parias, n'est-ce pas ? Économiquement, anthropologiquement, ça n'est pas la même chose. Donc là, pas de déchets, pas de parias. Dans La montagne magique de Thomas Mann, pas de déchets non plus. Et en un sens, c'est une lacune bizarre, c'est comme une espèce de faute du récit, parce qu'il est très difficile d'imaginer la description d'une communauté où, dans laquelle il n'y ait pas ce déchet. Et cela rend le récit, et c'est le cas de La montagne magique, cela en fait un récit tout à fait idyllique, dans lequel ce qu'il y a de noir dans le roman, dans La montagne magique, ça vient de la mort et ça ne vient pas des affects. Je voudrais troisièmement signaler une structure absolument paradoxale, c'est celle où l'actant déchet se confondrait ou se confond avec l'actant sujet, pour reprendre la terminologie de Grémas. Confusion donc des deux actants dans le même acteur, c'est-à-dire les récits où l'éponge est en quelque sorte le sujet du récit. Or, nous avons cela dans notre corpus, nous avons un récit où l'éponge, le déchet, est le sujet du récit, c'est La séquestrée de Poitiers. C'est-à-dire que, comme acteur, elle est le déchet absolu. Elle vit dans un antre, poubelle, dans une sorte de poubelle, avec de la crasse, des excréments, de la vermine, mais elle est le sujet énigme du récit. Et c'est un récit très paradoxal, puisque le sujet, c'est-à-dire le héros principal, est sans objet. Il ne désire rien, il est sans quête. Et je dirais que dans La séquestrée de Poitiers, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est la police, c'est la justice, c'est la société qui fait un récit de ce cas. Ça n'est pas du tout le sujet. Le sujet, lui, il est hors récit. Alors tout ceci pourrait être rattaché soit à une théorie du bouc émissaire, hein. Alors là, il faudrait reprendre les thèses de René Girard sur la violence et le sacré, soit à la théorie du sorcier chez Lévi-Strauss, telle qu'il a énoncée dans l'introduction à l'anthropologie structurale. C'est-à-dire qu'il y aurait dans chaque communauté, par une sorte de nécessité de la logique sociale, un point, un personnage sur lequel la communauté fixe la maladie, à titre d'abcès de fixation. Et de la sorte, en fixant la maladie sur un personnage, la société ou la communauté exorcise cette maladie et s'en débarrasse. C'est le cas du sorcier dans les sociétés anthropologiques. Autrement dit, j'intègre l'anomique en codant sa place d'anomique. Je le récupère à une place sans danger. Et c'est en général ce que fait le pouvoir, s'il est astucieux, avec les marginalités. Le pouvoir, à ce moment-là, face à l'anomique, établit des parcs, des réserves, comme pour les Indiens. Par exemple, c'est de l'intérêt du pouvoir de faire des intellectuels anomiques une caste, reconnue, mais cantonnée. Enfin, on reconnaît pour limiter. Voilà la tactique. Car le dernier tour de la manipulation, je dirais que ce serait pour finir de glorifier et d'honorer et de consacrer le déchet. Un pouvoir astucieux cantonnerait bien le déchet à sa place et, une fois cela fait, pourrait le glorifierait et l'honorerait. Et c'est ce que veut faire le monastère. Hein? Elle veut finalement glorifier le déchet. Mais le déchet, s'il est conséquent, n'a plus qu'à partir plus loin, et c'est ce que fait notre éponge. Il n'est pas très long, aucune de ces figures n'est très longue. Il s'agit de la figure qui a pour titre l'événement. Je partirai de cette question. Pourquoi est-ce que Robinson Crusoe, qui est très largement un roman de la solitude, pourquoi est-il, ou pourquoi l'ai-je mis, ou l'ai-je gardé, dans notre corpus? Eh bien, parce que le vivre ensemble, surtout idiorythmique, doit intégrer, à titre paradigmatique, d'opposition, des valeurs du vivre seul. Or, quand j'ai relu Robinson Crusoe, et que j'ai essayé d'observer mon plaisir de lecture, j'ai constaté, du moins personnellement, ceci. J'ai fait, dans ma lecture, m'a-t-il semblé, le contraire de ce que fait, dit-on, le lecteur normal de récits, que je suis d'ailleurs moi-même pour d'autres récits, et le contraire de ce pourquoi, dit-on, l'auteur écrivait. C'est-à-dire que, quand les événements arrivent dans l'existence solitaire de Robinson sur son île, par exemple les démêlés avec des sauvages cannibales, c'est le type même d'un événement, eh bien, disons qu'à partir de, à part, exception faite pour l'épisode de vendredi qui implique l'intrusion d'un affect, chaque fois qu'un événement est arrivé dans la solitude de Robinson, cela m'a dérangé. Cela a dérangé mon plaisir de lecture et cela m'a ennuyé. L'événement dans ce récit, ce qui est très paradoxal, brisait un charme, le charme puissant de ce livre, qui est le charme d'une quotidienneté précisément sans événement. Ce que je trouve absolument charmeur dans Robinson, c'est tout le début, le début de l'épisode où il est seul sur l'île, l'organisation de la vie, où il n'y a pas, proprement parlé, d'événement, et où, par conséquent, on peut fantasmer puissamment sur l'organisation ménagère de la vie, la hutte, le jardin aux raisins, toute la partie bucolique, etc. Alors que lorsque l'événement s'introduit dans cette vie où il ne se passe rien, l'événement fait de moi, lecteur, un autre sujet. Car à ce moment-là, je deviens sujet du suspense, je dirais, pour aller vite, je deviens sujet du meurtre, je deviens sujet du père. Et je ne suis plus sujet du nid, sujet de la mer. Au fond, l'événement, je dirais brutalement, l'événement, c'est toujours le père. C'est d'une certaine façon le père, et d'ailleurs l'Œdipe est le prototype de l'événement et le prototype du récit. Je dirais que tout événement est œdipéen. Et le charme de Robinson Crusoe, pour moi, c'est précisément d'être le texte du non-événement. Alors, fantasmer le vivre ensemble comme quotidienneté, c'est effectivement, à partir de cette prémisse, si vous l'acceptez, c'est refuser, c'est rejeter, c'est vomir l'événement. L'événement serait l'ennemi du vivre ensemble. Alors, on a à ce sujet les prescriptions de Pacôme, qui a fondé le premier monastère, qui voulait, n'est-ce pas, qui a édicté que dans ce premier monastère, il ne devait y avoir aucune intrusion de nouvelles. Les nouvelles du monde, les nouvelles de l'extérieur, ne devaient pas entrer dans la communauté. Donc la communauté se fermait à l'événement. Et puis aussi, dans la vie, notre vie privée, dans les petites communautés que nous formons entre nous, entre amis, il y a l'ambivalence de ce qu'on pourrait appeler les sujets ou les amis ou les sujets à initiative, qui ont des initiatives, qui prennent des initiatives relativement à la vie du groupe. C'est d'ailleurs là quelque chose qui est mal repéré par les psychologies. L'initiative, c'est-à-dire l'invention de la chose plus ou moins inattendue à faire collectivement.